Jean-François Lisée.
On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Alors, Tom, Danielle Smith, qui a été élue, elle a déjà commencé sa bataille avec Ottawa.
ça n'a pas pris longtemps. Minuit, c'était lent à sortir les résultats. Mais finalement, donc le Parti conservateur uni de l'actuel premier ministre, Danielle Smith, donc qui a été reconduit dans ses fonctions, a gagné une victoire. 8 points en avance sur le NPD, ce qui est beaucoup plus que les sondages prédisaient. Donc, une bonne victoire, mais pour le NPD, quand même, une très bon score. Ils ont réussi à avoir 13 des 26 sièges à Calgary, par exemple, et 20 sur 20. À Edmonton. Mais c'est un peu comme Québec, Richard. C'est-à-dire, dès que tu sors des grandes villes, 100%, quasiment 100% pour le Parti conservateur, haut la main, genre 3 ou 4 pour 1. Donc, c'est vraiment là qu'elle a fait de foule de sièges, puis elle va gouverner. Très forte opposition, c'est à peu près une quarantaine de sièges pour le NPD, puis une cinquantaine, roughly, pour 48, quelque chose comme ça, pour les conservateurs.
Mais, donc, c'est pas un gouvernement majoritaire, là?
C'est majoritaire.
Ah, c'est majoritaire, OK.
Il y a juste deux partis. Okay. Ben, en fait, il y a 50 partis avec 0,1% chacun. Hein. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle prend le micro à minuit hier soir, puis elle commence à varger sur Trudeau. D'habitude, même quand tu es un petit peu porté à être extrême dans tes propos, tu te donnes une petite chance, tu remercies tes organisateurs, oui. Tu félicites les gens, bla bla bla. Non, non, non. Drette dans le kisser de Justin, OK? Patal. Là, toi, là, puis tes plans pour l'environnement, puis notre secteur pétrolier et gazier, occupe-toi de tes affaires. Et donc, c'était vraiment une annonce d'une guerre appréhendée. Ce qui est intéressant, parce que Trudeau risque d'en bénéficier dans le reste du Canada. Disant, ben, regarde, c'est un dingo, là, écoute-la pas, puis moi, j'ai un plan. Même si le plan de Trudeau en environnement n'a absolument jamais rien donné, il est revenu de l'accord de Paris. Tiens-toi bien. Moi, j'étais dans la pièce avec lui en 2015. L'accord de Paris est en train d'être signé. Notre Justin National, il met ses bras larges, puis il dit, Canada is back. Hey, il revient au Canada. Puis il annonce qu'il est back avec le plan de Stephen Harper, les cibles de Stephen Harper et les échéanciers de Stephen Harper. Puis même ça, il n'était pas capable de le faire. Alors là, Trudeau fait très peur à Danielle Smith puis à l'Alberta, bien que l'industrie n'est pas dingue à temps complet. Moi, j'ai été invité par eux autres pour aller les rencontrer. Et je vais te dire, en matière, par exemple, de séquestration, de capture de CO2 et ainsi de suite, ils ont vraiment des technologies de pointe sur lesquelles ils travaillent. Et c'est super intéressant. Donc, Trudeau va faire des parages avec elle. Elle va s'émouvoir de l'ingérence d'Ottawa dans leur secteur des ressources naturelles. La vérité, c'est que les compagnies savent qu'ils sont target devant les tribunaux, là. Et les plus grosses compagnies pétrolières, exactement comme les compagnies de tabac à l'époque, sont en train d'être poursuivies pour des centaines de milliards US devant les tribunaux parce qu'ils savent depuis 40 ans pour les changements climatiques, tout comme ils cachaient les études sur le tabac. Donc, stay tuned, comme on dit, mais Danielle Smith, elle va être pour nous autres un paquet de plaisir. Pour Trudeau, un paquet de
problèmes. Mais Tom, pour ceux qui suivent pas vraiment les politiques provinciales à l'extérieur du Québec, et, on avait entendu parler de l'Alberta qui avait dit, nous autres, c'est la politique de l'autonomie, hein, un peu comme François Legault. Puis si on juge qu'il y a des lois fédérales qui contreviennent au bien-être de l'Alberta, on les appliquera pas chez nous.
Elle a une loi sur la souveraineté d'Alberta.
Et c'est rendu comment? Est-ce qu'elle l'a oublié? Elle l'a jeté aux poubelles, cette loi-là?
Non, elle l'a pas oublié. Ben là, elle va commencer à l'appliquer d'aplomb, là. Parce qu'elle va se sentir regaillardie, là. Elle a une belle majorité. Ben, quand même, une solide majorité. Puis elle va commencer à swinguer. Ce qui est intéressant, c'est parce que Jason Kenney, lorsqu'il a uni les deux partis de droite, le Wild Rose et les progressistes conservateurs, pour créer ce nouveau parti conservateur uni, il n'était pas assez à droite au goût de sa base. Il s'est fait sacrer dehors. C'est lui qui les a sauvés. C'est lui qui a monté un nouveau parti. Il est devenu premier ministre. Puis en plein milieu de son mandat, ils ont mis ça à la porte. Alors, elle, ça lui arrivera pas. Elle va plaire à sa base. Elle va swinguer. C'est une affaire qu'on n'a pas vue depuis des décennies. À l'époque, en Colombie-Britannique, le Fed bashing, c'était l'affaire des créditistes. Social credit de W.A.C. Bennett, qu'on appelait Wacky Bennett. Mais là, on va avoir Wacky Smith là, en Alberta. Elle va nous en sortir une par semaine. Il n'y a rien qu'elle ne dira pas. Et ça va être un parti plaisir pour des gens comme toi et moi qui analysons la politique.
Mais est-ce que ça va inspirer le Québec? Parce que, écoute, ce qu'elle dit, c'est qu'on va être, tu sais, ce que Yvon Deschamps disait, on va être un Québec séparé dans un Canada uni. C'est ce qu'elle veut, Danielle Smith. Oui. Est-ce qu'elle va inspirer le gouvernement Legault qui va regarder de près ce qui se passe là?
Ben, écoute, Legault, ce qui est intéressant, il y a un très bon papier dans le journal La Presse ce matin sur l'immigration. Et tu vois pas que, ayant appliqué un truc un peu extrême avec Simon Jolin Barrette, ça a foiré complètement. Le mot s'est répandu, même parmi les gens qu'on souhaite ici, c'est-à-dire des francophones avec une bonne éducation et tout ça, le mot se répand. Touche pas au Québec, t'es accueilli les bras ouverts ailleurs. Là, on a Christine Fréchette. Elle a compris qu'elle a un rôle à jouer pour bâtir des ponts et pu mettre le feu partout. Quand t'as un Simon-Jolin Barrette, tu mets le feu partout puis ça donne pas de résultat. Est-ce que Danielle Smith va mettre le feu partout puis ça donnera pas de résultat ou elle va se faire sacrer dehors comme Jason Kenney? Stay tuned, comme on dit.
Jean-François, un Québec séparé dans un Canada uni, c'est le rêve de tout Québécois.
Écoute, oui, probablement. Est-ce que Danielle Smith, hier, c'était intéressant parce qu'elle a envoyé un signal très fort à Justin Trudeau pour lui dire qu'il n'était pas question de faire en sorte que le gouvernement fédéral empêche le développement de l'Alberta, qu'il va y avoir une bataille très forte. Alors, c'est la stratégie de Trudeau face à l'Alberta qui va être intéressante. Comment est-ce qu'il va gérer ça? Comment est-ce que Stephen Guilbeault va gérer ça? C'est la quadrature du cercle. Et déjà, on est une puissance pétrolière. L'augmentation de la production pétrolière au Canada est censée être de 50% au cours des 20 prochaines années. Comment est-ce que tu veux baisser le nombre de GES alors que tu augmentes la production pétrolière et que là, maintenant, tu as une première ministre de l'Alberta qui veut pas jouer, qui veut juste... Elle a dit qu'elle voulait avoir une proposition intelligente de réduction, mais on sait ce que ça veut dire. C'est les compagnies pétrolières veulent avoir de l'argent pour faire de la capture de carbone, qui est le principe du pollueur payé. Alors ça va être une énorme difficulté dans la gestion de la question de l'environnement. Comment est-ce que Trudeau va faire? Difficile à dire.
Alors, Mme Smith s'est comportée, excusez-moi d'être vulgaire, mais s'est comportée un peu comme Logan Run dans Succession. Elle a dit « fuck off » à Justin
c'est
Trudeau.
C'est la citation exacte qui manquait hier soir, mais le ton et le sentiment étaient là.
Tout à fait. Jean-François, 3 Québécois sur 4 seraient contre la hausse du salaire des députés, selon un sondage.
Écoute, 80% sont contre. C'est énorme. 80%, c'est très difficile de trouver 80% de gens qui sont pour ou contre quelque chose, sauf, disons, les feux de forêt. Êtes-vous pour ou contre les feux de forêt? Tu vas avoir 80% des gens qui sont contre. Mais et parmi ceux qui sont contre, il y a 49% qui sont très en désaccord. Alors, ça veut dire que ça, ce sondage-là, on l'a parce que Québec solidaire, qui a décidé de faire de la lutte contre la hausse du salaire des députés, un de leurs chevaux de bataille. Ils ont demandé à alléger ce sondage, et il est publié ce matin dans Le Devoir. Et ça montre que probablement que le coût politique de faire cette hausse-là a été sous-estimé par le gouvernement Legault. Évidemment, ils font ça, tu sais qu'on n'est même pas à la fin de la première année du deuxième mandat, donc ils font ça au début de leur deuxième mandat, ils espèrent que ça va être oublié. Puis c'est sûr que ça va être oublié au moment de l'élection, mais ils le font dans une séquence négative pour la popularité du gouvernement. Ça veut dire que ça s'additionne un certain nombre de choses et ça peut s'inscrire dans une chute de popularité qui peut devenir permanente. Alors, moi, je trouve que ils sont tellement mal pris dans cette... Il y avait plusieurs façons d'étaler la hausse sur plusieurs années. Ils auraient pu la reporter au lendemain de la prochaine élection, mais ils ont décidé de faire ça de la façon la plus brutale possible.
Et
l'électorat réagit.
Et Tom, tout est une question de timing. Alors qu'on parle d'inflation et tout ça, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour arriver avec ce dossier-là?
Ben, demande à Sonia Labelle ce qu'elle en pense. C'est sûr qu'elle est d'accord parce que c'est elle qui est responsable de renégocier les contrats avec 600 000 employés de l'État. Puis elle est une championne. Là. On vient de parler de Fréchette tantôt. Ben, on dirait que les ministres les plus forts sont souvent les femmes au sein du cabinet de François Legault et ce sont deux bons exemples. Mais il y a une chose quand même que Yasmine Abdel-Fadel, de nos collègues à Cube et à La Joute et ainsi de suite, a dit la semaine dernière que j'ai trouvé particulièrement pertinente. Elle a dit ils ont tellement mal vendu leur salaire. Je dis comment? Elle dit, regarde, hein? Il n'a qu'à commencer en disant ça fait 23 ans, les députés n'ont pas eu d'augmentation. Qui s'avère d'être le cas. 23 ans, je ne savais pas. C'est depuis 2000 qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Alors, il y a eu le rapport de la juge à la Cour suprême et ainsi de suite, mais on n'a rien fait. Et d'où la fameuse citation de Drainville en train de dire « Hey, tu fous 30 % pour les députés, blablabla. » Mais si on avait commencé là, disons, on est en train de parler de 1,2, j'arrondis, là, j'ai inventé un chiffre. Si on est en train de parler de 1,2% par année, ce qui est en bas de l'inflation de temps, puis c'est un rattrapage, blablabla, peut-être que ça serait mieux vendu. Mais juste dans le caisseur comme ça, 30% pour les députés, puis 9% pour les infirmières, ça ne se vend pas. Par ailleurs, je le dis, là, pour avoir été député à Ottawa et à Québec, il n'y a aucune raison que les députés à Québec gagnent autant en bas des députés à Ottawa. Il était grand temps de faire un rattrapage, mais je pense que Yasmine a raison. Dans ça, tu sais, comme dit Geneviève Guilbeault tout le temps, souvent, c'est une question de communication. Ici, là, d'avoir Legault qui est en train de s'émouvoir pour les enfants des députés, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de vouloir plus pour leurs enfants? Oui, puis les institutrices pareilles, les infirmières pareilles, bien
oui.
Fait, alors, c'était une bonne idée extrêmement mal exécuté, mais je connais assez notre ami Legault, il va pas backer, là. Il va pas reculer à ce stade-ci.
Messieurs, c'est rare qu'on parle d'économie. J'ai envie de vous lancer, là, sur tous ces millions qu'on donne, si ce n'est pas des milliards, à des entreprises qui sont des multinationales richissimes. Bon, là, c'est 208 millions. C'est pas énorme, mais quand même 208 millions pour GM de prêts pardonnables. Hein, c'est-à-dire, s'ils remboursent pas, on passe l'éponge et on oublie ça. C'était 13 milliards pour Volkswagen et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Jean-François?
Ben, je pense que ce serait mieux que ça n'existe pas. moi, j'étais, quand on était au pouvoir, comme j'avais la responsabilité du commerce extérieur, j'étais dans le comité interministériel de l'économie où ces dossiers-là passaient. Et le calcul qu'on faisait, c'est, bon, c'est sûr que si nous, on donne pas d'argent à l'entreprise, elle va aller au Nouveau-Brunswick,
ben,
elle va aller au Tennessee, elle va aller ailleurs, et les entreprises font des enchères entre les différents gouvernements qui leur offrent des choses.
Mmh.
Alors, le calcul que le ministère des Finances faisait, c'est à partir de quel moment ça devient pas rentable. C'est-à-dire, on se dit, bon, on va leur donner tant, mais ils vont investir tant dans l'économie, ça va faire tant d'emplois, et on va récupérer en impôts à peu près ce qu'on leur donne sur une période de tant d'années. Il est arrivé qu'on ait des dossiers où on dit, ben ça, c'est non, parce que à la fin, on perd. À la fin, on perd. Alors, donc, c'est sûr que le fait que le gouvernement Biden ait massivement offert des subventions aux entreprises de technologie verte fait en sorte que le Canada et l'Europe sont obligés de suivre s'ils veulent avoir les entreprises. Mais de la même façon, on fait le calcul, on se dit, bon, ben, à la fin, c'est rentable, ou on prend une décision stratégique en disant, ben, pour cette entreprise-là, on va perdre un peu d'argent, mais les sous-traitants vont être importants, puis ça va créer une masse critique qui va en attirer d'autres. Alors, encore une fois, ce serait mieux que ça n'existe pas nulle part.
Mais a-t-on le choix?
On les aura pas.
Tom, tu avais parlé de Stellantis en disant que c'était de l'escroquerie, littéralement, là.
Oui, c'était du chantage. Et Stellantis, c'est pas encore réglé. J'ai l'impression que ça se réglera pas parce qu'il y a une limite à ce que Trudeau veut faire pour avoir l'air ridicule, puis Christopher Freeland va quitter, si on n'arrête pas de déconner. Mais ce qui est intéressant, c'est que la somme pour Volkswagen paraissait moins choquante que la somme pour GM, parce que GM, pour ma génération, du moins, c'était emblématique, c'était AT&T. Tu sais, c'était des grandes compagnies américaines qui dominaient sur la planète, puis GM était l'emblème de ça. Mais pense-y une seconde, même Volkswagen à 13 milliards, Volkswagen, là, ça, c'est la compagnie qui, à peine quelques années, était mise à l'amende à des milliards de dollars aux États-Unis, puis pour des peanuts ici au Canada, d'avoir truqué. Ils ont mis les meilleurs ingénieurs de la planète, pas pour faire les voitures les moins polluantes, mais pour masquer la pollution de leurs voitures dès qu'on faisait les tests. C'est hallucinant de penser que ça... Et dans la chicane, pour faire le lien avec une conversation il y a 2 minutes, Daniel Smith hier soir a spécifiquement nommé le fait que Trudeau veut réduire la quantité d'électricité que l'on produit au Canada en brûlant du gaz naturel. Qu'est-ce qu'on va faire en Ontario pour Stellantis si jamais ça se fait, et certainement pour l'autre usine à batterie qui est déjà approuvée? On va brûler des énergies fossiles sous forme de gaz naturel parce que l'Ontario n'a pas d'hydroélectricité, n'a pas d'électricité en surplus. Ils vont être obligés de le créer avec des énergies fossiles, ajoutant des GES et contribuant au réchauffement de la planète et au changement climatique. Et c'est le même Trudeau qui a le culot de nous dire « Ah, mais quand mon ami Steven, qui est tellement bon en environnement, ça se peut pas le BS qu'on entend à propos de l'environnement de la part de Trudeau. » Et regarde bien ça. Volkswagen, une des pires compagnies au monde pour ce comportement-là. Volkswagen qui va brûler du gaz naturel pour faire son électricité. Puis Trudeau se donne des grosses tapes dans le dos disant « Tout ça, c'est pour la transformation verte de l'économie. Bullshit. »
En terminant, une question qui va certainement se poser au cours des prochains jours. Est-ce que on devrait faire des funérailles nationales pour Michel Côté? Chaque fois qu'il y a une personnalité importante que les Québécois aiment beaucoup disparaît, cette question-là revient. À partir de quels critères? Parce qu'il y a des gens qui vont dire Jean Lapointe en a pas eu, mais René Angélil en a eu. Comment on fait? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François?
Il y avait cette émission qui s'appelait Les Invisibles à TVA sur une agence de vedettes. Oui. Et Marc Messier jouait son propre rôle dans un des épisodes. Il pensait qu'il allait mourir. Il jouait le rôle d'un hypochondriaque. Et il dit, penses-tu que je vais avoir des funérailles nationales? Puis l'agent disait, ben, je suis pas sûr. Parce que René Angélil, lui, il y en a eu, tu sais.
Oui.
Et puis, je trouve que c'était tellement bien fait parce que quel est le critère? Puis, je mets pas en cause le fait que René Angélil a eu des funérailles nationales, mais la dernière fois, je ne sais plus qui a été décidé, on a eu la même discussion.
Jean Lapointe.
Et on cherche. Oui, Jean Lapointe.
Jean Lapointe.
On n'arrive pas à savoir quels sont les critères.
Non.
Le gouvernement ne nous dit pas. Il dit c'est le protocole qui décide. Ben, voyons donc voir si c'est le protocole qui décide. Ça, c'est des employés du gouvernement. Et à chaque fois, on a cette difficulté-là. Et donc, ben, j'aimerais qu'on clarifie les choses. Je sais que c'est extrêmement difficile de clarifier cette chose-là. Mais ensuite, il y a la question de savoir est-ce que la famille veut ça? Si la famille ne veut pas, ça règle un petit peu la question.
Oui, mais tu sais, comme Gilles Carle, mon collègue Philippe-Vincent Foisy m'a rappelé que Gilles Carle avait eu des funérailles nationales. Est-ce que ça veut dire que Denis Arcand mériterait s'il disparaissait? On ne sait pas à partir de quel critère, Tom.
Ben, moi, je pense, et c'est une vieille formule, au gouvernement, en cas de doute, forme un comité. Parce que je suis complètement d'accord avec Jean-François. Tu dis, ben, c'est le protocole, quoi. Un bureau au 17e étage de l'EDFG, il y a 5 personnes dans un coin qui décident ça, c'est le gouvernement. Alors, il va falloir qu'on ait une manière de donner ça à un comité de sages, de bénévoles, des gens avec des longs états de service dans différents domaines. Parce que tantôt, pour un ancien joueur de hockey, on va en faire la première femme. Claire Kirkland Casgrain, je me souviens de ses funérailles. Pourquoi? Ben, parce que c'était la première femme élue, ascendée, ainsi de suite. Donc, il y a des différents critères qui arrivent à différents moments. Toutes ces personnes-là sont méritoires. Mais comment tu en exclus? Et l'exemple classique, c'est Jean Lapointe, vis-à-vis justement de côté. Comment on va décider ça? Pour moi, il devrait en avoir. Ok, pour moi, c'est assez clair qu'il devrait en avoir, mais je suis pas sûr parce que les gens vont dire, ben c'est parce que dès que tu commences à colorier, les gens vont projeter leurs préjugés. Ah, mais c'est parce que ton gouvernement aime telle affaire puis pas telle autre affaire. Donc, fais un comité de sages, 5, 6, 8 personnes, pas d'importance, des bénévoles. Tu les laisses se réunir, peu importe comment, quand il y a des grandes questions comme ça, puis ils vont faire une recommandation. Comme ça, ça va être neutralisé un petit peu,
tout
puis on va arrêter de chicaner. Oui, puis tu peux devenir des objectifs et des critères.
Et je rappelle que dans l'histoire du Québec, il y a seulement 29 personnalités qui ont eu droit à des funérailles officielles organisées par l'État. Seulement 29. Merci beaucoup à vous deux. Merci, à demain. Bonne journée.
À demain.